France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Sacha Mattei, Théa Corlaire et Barthélémy Gaillard, réalisée par Cassandre Pouel et à la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour Mélanie.
Nous reviendrons sur la situation aux États-Unis une semaine après la réquisition par l'administration Trump de la garde nationale à Los Angeles. Un passage en force perçu et dénoncé comme une attaque sans précédent contre l'état de droit, selon le gouverneur Gavin Newsom. Ce déploiement de l'armée en Californie est-il un test pour la démocratie américaine ? Nous en discuterons avec nos deux invités, Charlotte Coquillon, bonjour.
Bonjour.
Et Ludivine Gilly, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à toutes les deux. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Et notre invité ce vendredi revient du Groenland. Bonjour Jean-Marie Ozat.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant et c'est à Nuuk, la capitale du Groenland et ses environs, que vous vous êtes rendu pour le magazine Oui Demain, partant de l'idée que les velléités d'annexion du territoire annoncées par Donald Trump en janvier dernier n'ont rien d'anecdotique et doivent être prises au sérieux. Vous avez voulu comprendre comment ces annonces ont été perçues et vécues par les habitants sur place, quelles craintes elles soulèvent, quelle histoire elles réveillent au Groenland, un territoire autonome rattaché au Danemark, dont les habitants rêvent depuis longtemps d'indépendance. Et ce qui frappe à vous lire, Jean-Marie Ozat, c'est la fatigue et l'agacement dont témoignent les Groenlandais à l'idée de s'exprimer à nouveau sur les projets états-uniens. Comment ont-ils vécu l'exposition médiatique de ces derniers mois depuis que leur pays a été désigné comme une sorte de terre vierge à conquérir ?
Alors, je pense qu'ils ont tous le sentiment d'avoir été pris dans une mauvaise blague. C'est-à-dire que En gros, ça a été pourquoi ça nous tombe dessus, pourquoi nous, quoi, véritablement pourquoi nous. Et tout le monde, la planète entière riait quand Trump a dit je vais prendre le Groenland, je vais l'acquérir ou je vais le conquérir. Mais de toute façon, je l'aurai. Il y a eu une espèce d'éclat de rire universel et les Groenlandais, les Inuits en particulier, ont eu l'impression d'être pris dans une sinistre blague et d'être projetés. Vers un passé pas si lointain que ça, vraiment le bon temps des colonies. C'est-à-dire, on vient, on dit, ben, je vous rachète. En gros, c'est dire aux Danois, au Danemark, vous me le faites combien, votre kilo d'inuit ? Et c'était véritablement une mauvaise blague. Et puis, dans un second temps, je crois qu'ils ont eu un sentiment d'humiliation. C'est-à-dire qu'on ne nous consulte pas, on ne nous demande pas notre avis. Et puis, on va récupérer nos terres et nos ressources. Et les exploiter sans qu'on en tire aucun bénéfice. Mais vraiment, c'est ça. Je crois qu'il y a eu fatigue et humiliation.
Pour eux, nous ne sommes que ce que nous n'avons pas et que nous n'avons pas les moyens de nous offrir, vous dit une vendeuse dans un magasin de vêtements, oui. Un magasin où d'ailleurs on peut trouver des t-shirts avec la carte du Groenland et puis inscrit en dessous « Not for sale ».
Exactement. C'est-à-dire que ces gens-là, la culture inuite, c'est vraiment une culture du nécessaire et de l'indispensable. C'est-à-dire qu'on ne possède et on n'utilise que ce qui sert. Ce qui ne sert pas étant trop et devient une espèce de boulet. Et ils sont jugés par des gens qui disposent de tout, par nous et par les Américains, c'est-à-dire que nous, on est dans le superflu. Eux, ils sont dans le nécessaire. Et on les juge selon nos critères en disant vous n'avez rien, donc vous n'êtes pas grand-chose. Oui, c'est confondre l'être et l'avoir. Et c'est véritablement... ils n'arrivent pas à faire comprendre que ils ont tout ce dont ils ont besoin. Voilà. Et plus, ça ne va leur apporter que des problèmes. C'est-à-dire que s'ils ont plus à consommer, s'ils ont plus à acheter, ça va leur poser des problèmes.
Cette culture de la frugalité, vous la racontez notamment dans une excursion que vous faites à Capicilite. C'est un petit village situé à quelques heures au nord de Nuuk, la capitale. Mais à vous lire, tous les Inuits ne sont pas dans cette approche-là. Il y a aussi des personnes, par exemple, ce Jorgen Boasen, qui est un supporter de Trump, que vous rencontrez. Il a une casquette MAGA vissée sur la tête. Il a organisé la venue de Don Trump Jr., le fils de Donald Trump. Qui est cet homme et que représente-t-il ?
Si vous voulez, c'est comment dire, il y a toujours une frange de la population qui adhère véritablement au mythe américain, au rêve américain. C'est-à-dire que, vous savez, Trump flatte beaucoup, s'est flatté. C'est-à-dire qu'il dit aux Groenlandais, il dit aux gens du Groenland, mais vous vous rendez pas compte, ce pays est absolument énorme. Vous savez, il dit dans un discours, regardez, le Groenland, c'est massif, c'est gigantesque, c'est central. Comment est-ce que l'Amérique pourrait se passer d'un joyau pareil, comment on ne peut, l'Amérique ne peut pas se développer, ne peut pas devenir grande sans le Groenland. Et il y a des gens qui se laissent abuser un peu par ce discours en disant vous êtes très important pour l'Amérique. Les gens qui adhèrent à l'idéologie MAGA au Groenland, se laissent emporter par ça en disant nous sommes les égaux des Américains. Ce qui est une illusion, une chimère absolue, parce que ils risquent beaucoup plus de se retrouver dans la situation des Cherokees et des Creeks en 1830 que, en tant qu'alliés et partenaires.
Non, c'est cette illusion qui est un peu là au début janvier. Il y a donc cette rencontre qui est organisée où des notables et des habitants sont invités à partager un hamburger dans le meilleur restaurant de la ville. Et puis il y a aussi, on vous le raconte, des influenceurs américains qui distribuent des billets de $100 aux enfants dans les rues. Qu'est-ce que ces opérations séduction, avec des guillemets, ont-elles produit ?
Toujours, je crois, beaucoup d'humiliation, toujours énormément d'humiliation. Véritablement, c'est l'humiliation, c'est-à-dire qu'on distribue des billets. C'est vraiment de la verroterie. Mais très sincèrement, on est vraiment revenu dans cette histoire-là. On est véritablement revenu aux épisodes de l'échange de la verroterie. Donne-moi ton uranium, tu auras quelques billets verts. Vous voyez, c'est ça qui est. On est véritablement revenu à l'économie des comptoirs. Ouais, les comptoirs qu'on dispersait le long de l'Afrique et où on achetait des esclaves contre des perles de verre. Véritablement, on en est revenu là. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est pas le côté anecdotique, c'est que véritablement, on a le sentiment là-bas que le capitalisme, dans son ensemble, revient à une forme primitive du capitalisme, c'est-à-dire impérialiste, brutal, menteur. On dit, voilà, j'ai besoin de ton territoire, t'en fais rien, t'es pas capable d'en faire quoi que ce soit, moi j'en ai besoin, donc écarte-toi, je prends tout.
Et dans ce rapport de force très inégal, il y a beaucoup de pessimisme aussi que vous rapportez dans les propos des uns et des autres. On vous dit, il y a par exemple cet entrepreneur qui a d'ailleurs fait fortune avec une petite entreprise d'hélicoptères, oui. Et qui dit, Trump ou un autre président, les États-Unis ou une autre puissance, ils finiront bien par mettre la main sur les richesses du Groenland. Et de fait, ce que vous décrivez aussi, c'est la transformation de Nuuk, la capitale, qui peu Exactement. À peu voit défiler ces hommes d'affaires, ces avocats qui viennent faire des affaires
Nuuk se prépare. Nuuk se prépare, elle veut être, si vous voulez, Nuuk, on va véritablement vivre une nouvelle ruée vers l'or. C'est-à-dire que pour vraiment comprendre Nuuk, il faut revenir à ce qu'a été l'Alaska au début du XXe siècle. Véritablement, c'est les plus entreprenants, les plus brutaux, les plus ceux qui veulent vraiment tout risquer, qui vont affronter un territoire un peu difficile pour rafler les richesses. Et c'est vraiment le Klondike, et c'est vraiment l'Alaska des années 1900, 1905, 1906. Et c'est véritablement ça ce qui se prépare. La différence, c'est que les Américains ne sont pas les seuls en piste. Il y a les Chinois et il y a les Russes, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus discrets, mais toujours très présents. Et par exemple, les Chinois voulaient séduire les Groenlandais en leur offrant un nouvel aéroport. Et heureusement, ils ont dit non, merci, on va se débrouiller par nous-mêmes.
Et vous, d'ailleurs, vous apercevez le yacht d'un milliardaire russe qui est à Nouk au même moment que vous. On vous interdit d'ailleurs de le prendre en photo. Qui est cet homme? Quel business vient-il faire à Nouk?
C'est un... Si vous voulez, ce yacht absolument gigantesque, c'est le Datcha, appartient à un oligarque russe qui est arrivé à réussir la performance d'être poursuivi à la fois par Trump et par Poutine. Donc je pense que ses jours sont comptés à cet homme-là. Mais véritablement, si vous voulez, il y a des tas de gens comme lui qui se disent c'est là que ça va jouer, c'est là qu'il faut être. Véritablement, c'est là qu'il faut être. Parce que véritablement, il va y avoir une espèce de basculement. On anticipe la fonte des glaces et l'ouverture du passage du Nord-Ouest. C'est-à-dire que là, c'est une nouvelle voie maritime gigantesque qui va s'ouvrir. Et je vous rappelle que, par exemple, les Français avec CGA-CGM vont investir 20 milliards de dollars dans la construction de ports sur le Pacifique pour se préparer à ça. Les Chinois étendre leur nouvelle route de la soie vers ces endroits-là. Les Russes sont très très présents, très très présents. Et si vous voulez, c'est véritablement l'endroit où il faut être si on veut faire fortune. Si on veut revenir à cet esprit de la frontière et de la terre à conquérir, en écartant les primitifs, entre guillemets, qui sont là et qui font rien du trésor qu'ils ont sous les pieds, eh bien, c'est là qu'il faut être.
À Nouk, d'ailleurs, vous expliquez qu'une zone adaptée aux porte-conteneurs a été aménagée à côté du petit port où stationnent les bateaux de pêche. Oui. Et essentiellement, la pêche, c'est pour l'instant 80% des exportations du Groenland. Et vous dites aussi qu'on voit de plus en plus de pétroliers croisés au large de Nouk.
Parce que la route de la mer du Labrador commençant à s'ouvrir, il va falloir alimenter les bateaux, il va falloir remplir les cuves des bateaux, donc il faut amener du pétrole et du fuel maritime pour faire tourner ces bateaux. Donc on commence à avoir beaucoup de pétroliers. C'est une bombe environnementale absolument incroyable parce que s'il y a une marée noire, il n'y a personne pour nettoyer les côtes. Le Groenland, c'est 56 000 personnes. C'est-à-dire que si jamais il y a une marée noire qui s'étend, c'est une catastrophe, c'est fini. Et c'est un écosystème qui est extrêmement, extrêmement fragile, quoi. Mais bon, on prend le risque. Et les Groenlandais ne sont pas très, très, très favorables à ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Vous savez, Ursula von der Leyen, quand elle va au Groenland, elle leur dit, écoutez, désolé, mais sur les 35 minéraux dont on a absolument besoin en Europe pour assurer notre développement économique et assurer la transition écologique, il y en a 21 chez vous. Et on en a absolument besoin. Donc, à un moment donné, il faudra vous taire.
Et cette exploitation des mines, est-ce qu'elle divise aussi les Groenlandais? Je renvoie à quelques émissions qu'on a faites ici à propos du Groenland dans Culture Monde, où on voit aussi qu'il y a véritablement la tentation d'utiliser ces minerais aussi pour soutenir les projets d'indépendance du Groenland, parce que ça constitue aussi des opportunités économiques, politiques, voire géopolitiques pour les Groenlandais.
Oui, si vous voulez, effectivement, mais est-ce que 56 000 personnes ont la capacité d'utiliser, d'exploiter par exemple 21 millions de tonnes de terres rares qui sont sous la glace. Enfin, il faut imaginer, Groenland, c'est un énorme tas de glace avec des minéraux dessous. 56 000 personnes, c'est rien. Donc ce qui risque de se passer, même si les Groenlandais prennent leur indépendance et participent à l'exploitation de leurs ressources, ils vont se faire gober très très rapidement. C'est-à-dire ça va devenir un Koweït des glaces. C'est-à-dire leur culture va être complètement annihilée. C'est-à-dire et ils sont toujours attachés. Hein. Même c'est pas une culture souriante et particulièrement ils sont chaleureux, mais c'est pas la culture la plus celle qui vous attire le plus, c'est une culture du froid, c'est une culture de l'effort, c'est une culture de la frugalité, mais ils y sont très 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 attachés. Et donc il va falloir qu'ils renoncent à ça fatalement, d'une façon ou d'une autre, indépendant ou pas indépendant.
À Nuuk, toujours cette capitale dont on n'a pas dit qu'elle abrite 17 000 habitants, ce qui est tout petit. Je ne sais pas si c'est la plus petite capitale du monde, mais en tout cas c'est une petite ville qui est vraiment donc située au bord de la mer, des eaux glacées. Vous expliquez que le bâtiment principal de la ville, qui se situe au croisement des deux grandes rues, eh bien c'est un bâtiment qui abrite une banque. À quoi ressemble ce bâtiment et en quoi c'est selon vous emblématique des transformations de la ville ?
Alors, vous savez, quand je me promenais autour de ce bâtiment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait un petit Houston miniature glacé. Mais on voit, vous voyez, c'est une espèce de mini gratte-ciel. C'est quand même pas les tours de Houston, c'est pas Dallas non plus. Mais on voit banque et compagnie d'avocats. Voilà. Donc il y a des avocats et une banque qui sont installés. Et c'est vraiment au point névralgique, au centre névralgique de Nuuk. Et ça domine Nuuk. Et ça annonce ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va commencer à négocier des contrats, des affaires. On va en négocier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'argent à se faire au Groenland. Ça va pas être facile à cause du climat. Et ça va pas être facile à cause de la concurrence. Mais c'est une opportunité. Véritablement, c'est une opportunité.
Et ce bâtiment contraste avec les logements sociaux que vous décrivez également dans le reportage, qui ont été édifiés pour les Inuits dans les années 60. Vous décrivez des barres de HLM lugubrement soviétiques. Et vous expliquez que les familles qui les occupent ont été incitées à quitter leur village dans les années 60 pour se loger dans ces bâtiments. Pour quelles raisons ?
Alors, on les a regroupés là parce que simplement, les Danois n'avaient pas envie d'investir dans les infrastructures. Il n'y a pas de route, il y a deux aéroports sur le Groenland. Donc on s'est dit au lieu que les communautés soient dispersées, on va toutes les rassembler ici. Et on a construit ces barres de HLM qui sont véritablement, je connais assez bien la Sibérie, pour y être resté quand même pas mal de temps, c'est parmi les barres HLM, elles sont un peu plus laides que celles de Sibérie. Et il y a une seule barre HLM, par exemple, qui rassemblait, je crois, 1% de la population de tout le Groenland. Et c'est véritablement lugubre. C'est-à-dire que les Danois n'ont pas été, comment dire, extrêmement généreux avec les Inuits. Ils contrôlent le territoire. Ils n'ont pas été très, 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 très généreux. Il y a vraiment véritablement un mépris pour les Inuits. On leur dit, par exemple, écoutez, vivez là, c'est bien bon pour vous. Et puis, si vous voulez vous développer, renoncez à votre langue, renoncez à votre culture, venez étudier au Danemark, mais renoncez à tout, vous aurez une place, mais débarrassez-vous de tout ça, débarrassez-vous de votre bagage culturel qui n'est pas très intéressant finalement.
Entre cette historique-là et puis ce présent avec le défilé des investisseurs, des influenceurs états-uniens. Et vous rencontrez une jeune femme qui s'appelle Maria et qui travaille comme guide. Et elle vous dit qu'elle regrette le temps où le Groenland était considéré comme une terre d'exploration, non pas au sens minier, mais au sens aventure, découverte.
Ouais. Alors en naviguant avec elle, me disait... Groenland, c'est pas de la ressource minière qu'il faut venir chercher ici, c'est de la ressource spirituelle et de la ressource, comment dire, d'aventure. Si vous voulez, on peut devenir riche au Groenland, mais on peut devenir libre au Groenland aussi. C'est-à-dire que c'est véritablement des espaces absolument merveilleux. C'est l'immensité qui s'offre à vous et une immensité encore préservée. Et c'est véritablement la terre des gens comme Jean-Louis Étienne, des gens comme Nansen, comme... tous les grands explorateurs sont passés par là. Et si on perd ça, si ça devient interminé, ça commence à être piqueté de terrils et de décharges de déchets miniers, ça, on va le perdre et on va perdre beaucoup. On va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. On aura plus de terres rares, mais on va perdre beaucoup de liberté.
Explorateur, exploiteur, je reprends votre lapsus. Merci beaucoup Jean-Marie Ozat. Votre reportage Groenland, le nouveau Far West, est à lire donc dans le dernier numéro de la revue trimestrielle Oui Demain, qui est actuellement en kiosque. Merci beaucoup d'être passé dans le Retour de Terrain.
Mais je vous remercie. À bientôt. Accroche sur mes
La balade du groupe groenlandais originaire de Nuuk, tirée de leur premier album Niv Sings en 2012 et chantée en kalalisout. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission. On quitte les berges glacées du Groenland, direction la Californie.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
La démocratie est prise pour cible juste devant nos yeux. Le moment que nous redoutions est arrivé. Donald Trump est en train de manier un boulet de démolition pour détruire le projet historique de nos pères fondateurs. Trois pouvoirs égaux formant un gouvernement indépendant. Il n'y a plus d'équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir. Le Congrès répond aux abonnés absents. Mike Johnson a totalement renoncé à ses responsabilités. L'état de droit cède de plus en plus la place au fait du prince. Ce n'est pas pour cela que nos pères fondateurs se sont battus. Vous voyez ce genre de moment? L'heure est venue pour nous toutes et tous de résister.
Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui s'est adressé ce mardi 10 juin à ses concitoyens et administrés, mais aussi à la nation entière, car selon lui, la réquisition de la garde nationale et le déploiement de Marines décidés par le président Trump à Los Angeles ne relèvent pas d'un conflit politique entre un président républicain et un gouverneur démocrate, mais d'une atteinte à l'état de droit, d'un abus de pouvoir dont la Californie ne serait que la première victime. Cette crise nous concerne tous, a-t-il martelé. L'envoi de l'armée en Californie, alors est-il un test pour la démocratie américaine, alors que les contestations aux politiques migratoires s'étendent à d'autres États et d'autres villes? Est-elle un test également pour les démocrates? On en discute avec Charlotte Rocoquillon. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut français de géopolitique, enseignante à Sciences Po et journaliste, spécialiste des États-Unis. Votre dernier ouvrage, Harlem, une histoire de la gentrification, est paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Et à vos côtés, Ludivine Gilly. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Également. Vous êtes historienne spécialiste des États-Unis et directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. La révolution conservatrice aux États-Unis, c'est paru aux éditions de l'Aube. Et on commence la discussion comme chaque vendredi avec l'édito de Marc Sémot.
Merci Mélanie. Alors effectivement, Trump est à la peine. Les frappes israéliennes sur l'Iran, son nouveau revers pour lui. Il est engagé dans des négociations avec Téhéran sur le nucléaire. Il avait demandé à Benjamin Netanyahou de s'en abstenir. En Ukraine, son échec est tout à fait évident. La rupture avec le libertarien Elon Musk l'affaiblit. Ses volte-face continuelles sur les hausses des tarifs douaniers le décrédibilisent. Il s'est gagné le surnom de TACO, acronyme inventé dans un éditorial au vitriol du Financial Times, pour Trump's Always Chickens Out, qui fait florès. Trump se dégonfle toujours. C'est dans ce contexte qu'il faut lire son rôle de pompier pyromane face aux émeutes de Los Angeles, où il a envoyé en toute illégalité 2000 hommes de la garde nationale et 700 marines en passant outre les pouvoirs locaux, à commencer par le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, figure démocrate, qu'il surnomme Newscom, Gavin la racaille. Ce dernier est en passe de devenir central pour une prochaine présidentielle et il dénonce, comme on l'a écouté tout à l'heure, des abus de pouvoir et une attaque sans précédent à la démocratie. La faiblesse de Trump est dangereuse pour les États-Unis comme pour le monde, car elle le pousse à une continuelle fuit en avant. Il sait que ses postures de défenseur implacable de la loi et l'ordre plaisent à son électorat. La lutte contre l'immigration clandestine avait été l'un des grands thèmes de sa campagne. Il clamait qu'il y avait 20 millions d'illégaux sur le sol américain. En réalité, il sera à peine la moitié. Et il accusait, entre autres, dans un fake news fameux, les Haïtiens de manger les chats et les chiens. À raison, Gavin Newsom rappelait dans un appel à la télévision que si la Californie est la première à être ainsi frappée par le tournant autoritaire de Trump, elle ne sera pas la dernière.
Merci beaucoup Marc Semo. Et je voudrais qu'on commence par essayer de faire la lumière sur ce qui s'est joué dans le déploiement de la garde nationale à Los Angeles en termes légal. Alors hier, un juge fédéral a jugé comme illégale cette réquisition. Sa décision doit d'ailleurs prendre effet aujourd'hui à midi. Est-ce que ça signifie que
ça a été repoussé? Ça a été, oui, tout à fait.
Ludivine Gili.
En fait, l'information est tombée et deux ou trois heures après, la décision a été prise par un juge de district et quelques heures après, un juge d'appel fédéral a renversé la décision. Donc il y aura une audience en cour d'appel mardi. Mais pour le moment, la décision de Donald Trump d'envoyer la garde nationale tient.
Donc ça veut dire que les membres de la garde nationale sont actuellement toujours déployés dans les rues de Los Angeles ?
Tout à fait.
Charlotte Recoquillon, est-ce que vous pouvez nous aider aussi à comprendre à quel corps d'armée appartient la garde nationale, puisque les termes qu'on voit apparaître, c'est ceux de fédéralisation de la garde nationale, réquisition de la garde nationale. Donc pour bien comprendre, ce sont des membres d'une garde californienne qui ont été... réquisitionné par l'État fédéral, c'est ça qui s'est joué.
Alors, justement, la garde nationale, elle peut être réquisitionnée soit par les États eux-mêmes, ce qui s'est d'ailleurs produit au Texas, ce qui s'était produit dans le Missouri en 2014 lors des manifestations après la mort enfin le meurtre de Michael Brown par un policier blanc. Et là, par Donald Trump, donc par le président, et effectivement, ça s'inscrit dans un rapport de force constant et une tension constante aux États-Unis entre le pouvoir fédéral, qui est donc le pouvoir de l'État fédéré, de la nation américaine, et des États fédérés, donc là, la Californie, par exemple, avec en ligne de fond que aux États-Unis la philosophie politique c'est que l'État doit le moins possible intervenir dans les affaires privées et dans les affaires locales. Il y a toujours un peu cette tension entre donc l'État fédéral, les États fédérés et même les élus locaux, la primeur revenant toujours au plus petit dénominateur en termes de pouvoir.
Mais Gavin Newsom a considéré et dénoncé cette décision comme illégale. C'est pour ça qu'il a entrepris un recours en justice. Donc, vous nous dites ce matin que le juge, un premier juge a dit que c'était illégal, un second en appel a annulé cette décision en illégalité. Comment y voir clair, justement, sur la légalité d'une telle intervention fédérale dans un État fédéré, Ludivine Gili?
C'est finalement une bonne illustration de tout ce qui se joue depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'est-à-dire qu'on a des décisions judiciaires, des contre-décisions judiciaires, des recours, des appels, et toujours des discussions sur... que dit la loi? Que dit le droit? Que dit la loi? Que dit la Constitution? Et les décisions et contre-décisions dépendent d'interprétations de la Constitution. Sachant que là, ce qui est en jeu, le juge numéro 1 n'avait pas pris une décision formelle. Il avait suspendu l'exécution d'une décision dans l'attente d'un jugement sur le fond. Et le juge d'appel, c'est pareil. Donc on n'a pas de décision sur le fond pour le moment. Ce que cette question de fédéralisation de la garde nationale met en jeu ici, c'est le droit des États fédérés par rapport au droit de l'État fédéral. Il y a quand même le 10e amendement qui établit de manière très forte le droit des États fédérés. Et en termes de maintien de l'ordre ou d'intervention de l'État fédéral dans ces questions, on a une disposition qui est en général utilisée par les présidents. Ça avait été utilisé la dernière fois en 1965 par Lyndon Johnson. Ça a été utilisé en 1962 et 63 par Kennedy, en 57 par Eisenhower. Il s'agit de se mettre sous couvert de l'Insurrection Act. Et dans ce cas-là, on explique qu'il y a une forme de rébellion contre l'État fédéral. Et donc, on on prend le contrôle des troupes d'un État. En 1965, 62, 63, 57, c'était particulièrement notable parce que c'était sans l'aval du gouverneur de l'État. C'est le gouverneur de l'État ne fait pas son travail, selon le président prend le contrôle des moyens. Et là, la grande différence, c'est que ce qui est en jeu, c'est une pseudo perte de contrôle de la loi et de l'ordre en Californie par l'État de Californie, par le gouverneur, par la maire de Los Angeles, que l'administration Trump utilise comme prétexte pour envoyer la garde nationale de Californie en prendre le contrôle.
Sachant que ce n'est pas l'Insurrection Act, excusez-moi, je vais y arriver,
en plus,
qui a été déclenché là.
Voilà, il n'a pas utilisé l'Insurrection Act, il a utilisé une disposition du Code des armées, les deux sont dans le Code des armées, mais la disposition qu'il a mobilisée le place dans un cadre beaucoup plus restreint en termes de ce que les troupes fédéralisées pourront faire. Elles ne peuvent pas participer à des opérations de maintien de l'ordre. Elles peuvent seulement protéger les bâtiments fédéraux et protéger les fonctionnaires fédéraux.
Marc Semoc.
Oui, justement, c'est là qu'on voit que c'est une opération purement politique, parce que ni l'ampleur des émeutes qui étaient juste au début des petites échauffourées, ni les limites à l'emploi de la garde nationale qui va garder des bâtiments fédéraux. Donc il s'agissait fondamentalement de montrer que ce gouverneur démocrate de Californie, qu'il avait déjà mis en cause lors des incendies, est laxiste, etc., etc. Et c'est une pure opération politique pour reprendre la main dans un moment difficile.
Charlotte Recoquien.
Oui, et puis je voudrais ajouter qu'il me semble qu'il y a un piège aussi à discuter de la légalité, des petits points de détail, en fait, quand en réalité ça s'inscrit dans une attaque constante et de plus en plus agressive au droit de manifester et aux libertés d'opinion et de l'expression de cette opinion, que ce soit la liberté de la presse, la liberté de manifester, le droit d'opinion, etc. Que les manifestations étaient très largement pacifiques, même s'il y a eu quelques petits débordements, mais ce cadrage, ce discours narratif qui consiste à criminaliser les manifestants est très classique et très bien connu de tous les grands mouvements sociaux, pas seulement le mouvement pour la justice pour les immigrants, mais aussi pour la justice raciale et sociale en général. Et donc, il y a un petit peu un piège, parce qu'en attendant, on ne parle plus du tout de la cause de ces manifestations, qui est la politique migratoire et les raids et les arrestations arbitraires sur le lieu de travail de centaines de migrants, pas seulement à Los Angeles d'ailleurs, dans d'autres grandes villes, y compris des villes sanctuaires. Donc je pense que là, il y a une opération extrêmement réussie en faveur de Trump, de déplacer encore une fois le débat et d'oublier un peu la cause fondamentale.
Justement, sur la question de la cause, c'était prévu d'y venir. Est-ce que, pour revenir sur ce qui a provoqué les manifestations, il faut rappeler que depuis le mois de janvier, en Californie mais ailleurs, des arrestations, des expulsions massives de migrants ont lieu. Et Gavin Newsom, dans son discours, son adresse, le rappelle, prend le temps de rappeler le contexte et les origines des manifestations. Pourquoi ce corps fédéral qu'on appelle l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, concentre-t-il les critiques et les protestations? Quelles sont leurs méthodes? De quelle manière applique-t-il cette politique migratoire depuis 6 mois?
Alors, donc je vais répondre à votre question sur depuis 6 mois, mais en réalité, ICE existe depuis bien plus longtemps et on peut dater un changement de paradigme assez important après le 11 septembre, donc je ne rentrerai pas forcément dans cette mémoire-là, mais c'est quand même important de le rappeler que tout commence pas avec Trump, ni Trump 2, ni Trump 1. et donc, ICE, c'est la police qui est chargée du contrôle des frontières et de l'immigration. Donc, ils sont chargés autant de contrôler le trafic illégal, par exemple, etc., et le passage illégal des êtres humains. Donc, déjà, dans ce paradigme-là, contient la criminalisation de l'immigration clandestine par l'assignation d'une police pour ces différentes missions-là. Pardon. Maintenant, c'est donc une police qui est très armée, très militaire. Dans le cas de Los Angeles et de la Californie, comme c'est un État sanctuaire et une ville sanctuaire, le LAPD, à cause de la loi de l'État de Californie, ne peut pas collaborer avec ICE et procéder aux arrestations lui-même. C'est le cas dans d'autres polices locales, dans d'autres États. On a vu une collaboration entre ICE et des polices locales qui vont mettre en œuvre elles-mêmes les arrestations ou la politique migratoire. C'est pas le cas à Los Angeles. En revanche, le LAPD va quand même arrêter les manifestants et violemment éventuellement. Donc voilà, ICE c'est ça son rôle et critiqué parce que aussi il y a une sorte de captation et d'exploitation des personnes migrantes, d'abord par leur terrorisation permanente, les arrestations arbitraires, le secret permanent ou l'opacité en tout cas de leur pratique, et puis même les abus de préhension de leurs biens, de confiscation de leurs biens, et la confiscation de leurs cautions quand ils sont jugés, qui sont libérés sur caution, les cautions qui ne sont jamais restituées, c'est des centaines de millions de dollars que l'administration détient. Et puis, on en reviendra peut-être après parce que ça me semble être un point important, mais la privatisation de la gestion de la chaîne de détention et de déportation des immigrés, ICE finance énormément des compagnies privées pour détenir les migrants.
Des personnes qui ont été arrêtées alors qu'elles se rendaient à une convocation administrative, d'autres alors qu'ils étaient sur leur lieu de travail, notamment ces Home Depot où travaillent beaucoup de journaliers, parfois en situation irrégulière. Je me permets de renvoyer aussi au retour de terrain que nous avions diffusé ici en Californie, la peur des expulsions par la journaliste Nejma Brahim de Mediapart pour avoir un aperçu à échelle humaine de ce que représentent ces expulsions. Ludovine Gili, pardon, on a parlé des villes sanctuaires. Il faut rappeler ce que désigne cette appellation qui, déjà, lors du premier mandat de Trump, était apparue, qui sont donc ces villes ou ces territoires qui ont décidé de ne pas collaborer ou au minima, voire de s'opposer à la politique migratoire de l'administration fédérale.
Oui, on entend beaucoup de mensonges de la part de l'administration Trump sur ces villes sanctuaires. Alors, pas seulement des villes, justement, on parlait tout à l'heure des différents échelons. On a des villes, on a des comtés, on a des États. Et le principe de l'État fédéral et des États fédérés, c'est que, par définition, ce qui n'est pas du ressort de l'État fédéral est du ressort des États fédérés. Mais, en plus de cela, il ne peut pas être demandé à un État fédéré ou à un comté d'un État fédéré, ou à une ville d'un État fédéré, de faire appliquer des dispositions fédérales. Donc les États, les villes respectent la loi fédérale, mais n'ont pas comme obligation eux-mêmes, de faire appliquer. Et donc, sur la question de l'immigration, c'est bien ça le sujet des villes sanctuaires ou des comtés sanctuaires, c'est de dire... Ces villes, ces comtés ont voté des dispositions ou pris des dispositions indiquant que les forces de l'ordre de ces juridictions ne contribueraient pas à la mise en œuvre des politiques fédérales dans le domaine de l'immigration. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, comme le disait Charlotte, que la police de Los Angeles ne va pas procéder à des arrestations pour cause de présence sans papier sur le territoire des États-Unis, par exemple. Et donc ça, c'est le cas à Los Angeles, c'est le cas à Chicago, c'est le cas dans de très nombreux comtés, de très nombreuses villes aux États-Unis.
Et est-ce qu'on peut supposer qu'en envoyant la garde nationale à Los Angeles, Donald Trump tente de faire payer, entre guillemets, ces villes et ces territoires pour leur politique d'opposition ? Charlotte Coquillon.
Oui, et ça, sans doute, il y a une démonstration de force, il y a un bras de fer politique, il n'y a certainement pas, comme je l'ai entendu au début de la séquence médiatique, la volonté d'apaiser la situation, c'est à mon avis le cadet de ses soucis, et au contraire de faire une démonstration de force vis-à-vis des politiques. Et puis, de toute façon, c'est le style de Donald Trump et des dirigeants autoritaires d'une manière générale, c'est que quiconque ose s'opposer, contredire ou ne pas obéir est discipliné, puni pour cela.
Marc Semo.
Donald Trump avait aussi tenté de couper les subventions, notamment à Los Angeles, à cause du fait que Los Angeles était proclamée ville sanctuaire et n'appliquait pas ses dispositions fédérales, ce qui par ailleurs apparemment a été bloqué en justice.
Oui, en fait, c'est une des dispositions qui est semblable à de nombreuses autres dispositions dans d'autres domaines, en fait. Il est illégal pour le président des États-Unis de bloquer le versement de fonds qui ont été votés par le Congrès. Et donc, en l'occurrence, Donald Trump expliquait que pour les villes qui ne collaboreraient pas aux politiques anti-immigration de l'administration, il y aurait coupe de financement fédéral. Alors c'était vrai pour ce sujet-là, c'était vrai pour d'autres, et c'est illégal.
Oui, il avait utilisé ce chantage au moment des incendies de Los Angeles, c'est à ça que peut-être que vous faisiez référence. Mais effectivement, en janvier, là où Los Angeles avait énormément besoin de l'aide fédérale et du secours, et où on parlait quand même d'une catastrophe... où il y a eu des milliards de dégâts et puis de nombreux morts et des gens qui avaient tout perdu. Et Donald Trump utilisait ce moment-là pour conditionner l'aide fédérale à faire ployer Gavin Newsom déjà à ce moment-là sur les questions de ses politiques migratoires qui n'avaient absolument rien à voir avec la question des incendies.
Ludovine Gilly.
Oui, j'aimerais rebondir sur ce que disait Charlotte sur la question de l'intimidation. Parce qu'en fait... l'administration Trump, notamment par l'envoi de la garde, enfin par la fédéralisation de la garde nationale, tente d'intimider la Californie et, comme vous l'indiquiez, se faisant d'intimider également tout autre État, tout autre ville sanctuaire. Mais l'intimidation ne s'arrête pas là. Hier, un sénateur a été menotté.
Alex Padilla, le sénateur de Californie.
Exactement. Après avoir interpellé la ministre de... Alors, c'est la ministre de l'Intérieur en équivalent français. C'est pas la ministre de l'Intérieur aux États-Unis, mais la ministre de l'Intérieur en équivalent français, Christine Homme, pendant l'une de ses conférences de presse. Quelques semaines auparavant, une députée du New Jersey a été interpellée et hier ou avant-hier, elle a été mise en examen par un grand jury pour avoir contesté la présence de ICE, dont on parlait tout à l'heure, devant la présence d'un centre de détention de ICE dans le New Jersey. Donc elle a été arrêtée et maintenant elle est mise en examen. Et de la même manière, une juge a été arrêtée et mise en examen pour avoir supposément permis à une personne sans papier de tenter d'échapper aux forces de l'ordre. Donc on a des tentatives d'intimidation qui visent des juges, des députés, des sénateurs, des États, ce qui est plutôt problématique dans un État de droit.
Dans le cas de Alex Padilla dont vous parliez, les images sont tout à fait saisissantes. Il tente effectivement de protester contre la politique qui est menée. Il revient au fond de l'affaire lors de cette conférence de presse et il est empêché de parler. Il est cloué au sol et menotté avant d'être sorti de la salle. Quand Gavin Newsom, le gouverneur, dénonce dans le discours dont on a entendu un extrait en début d'émission l'atteinte à l'état de droit, l'abdication du Congrès, l'échec des contre-pouvoirs, est-ce que c'est depuis 6 mois la première fois qu'on entend une telle charge politique prononcée par un dirigeant démocrate. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un point de vue politique, d'un point de vue de l'opposition politique qui est en train de se jouer depuis ce discours, Charlotte Rocquillon?
Alors, quelque chose est en train de se jouer dans l'ampleur du moment qu'on est en train de vivre et dans la durabilité de la protestation et de la contestation, dans l'extension de cette contestation à des nouveaux cercles. Mais c'est certainement pas le premier à s'opposer. Ça fait des mois et des mois que sur le terrain, de très nombreuses organisations, associations, leaders, activistes et élus locaux protestent. Mais je pense que ce qui se joue, c'est que là, on a une extension des personnes et des groupes visés par les atteintes aux droits. C'est-à-dire que quand les restrictions, les arrestations arbitraires, les violences policières, les empêchements à la prise de parole, la censure, etc., touchent des groupes minoritaires ou des groupes qui ne sont pas considérés valables l'attention médiatique ou nationale, c'est-à-dire qu'on normalise ça, on trouve que les migrants, s'ils ont pas de papier, après tout, ils ont le droit d'être expulsés. Alors là, quand même, comme on commence aussi à expulser des gens qui non seulement ont des visas, voire même sont des citoyens américains, on commence à se dire peut-être que... Alors maintenant, on commence aussi à arrêter pas seulement des actes activistes et politiques, mais aussi des élus. Alors bon, on commence un peu à ouvrir les yeux. Mais en réalité, ce glissement-là, il est en cours depuis, et j'ai même envie de dire, bien plus que 6 mois, en réalité. Déjà, on a quand même ce moment très important du 6 janvier 2021, qui est quand même l'insurrection et la défiance vis-à-vis du système électoral, etc. Mais en fait, en réalité, et puis l'autre dimension, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse trop longuement, mais c'est que parmi les démocrates eux-mêmes, là, il y a un effet d'opportunité pour prendre la parole et apparaître comme des oppositions à Donald Trump. Mais la politique qu'ils ont menée pendant ces 4 dernières années, et même ces 15 dernières années, et même sous Clinton et sous Obama, elle n'était pas spécialement très protectrice et émancipatrice pour les migrants. Donc,
on a rappelé plusieurs fois, pareil, ici aussi à ce micro, que les expulsions de migrants avaient été plus importantes lors du mandat de Biden. Je vous pose quand même la question de cette réaction politique, puisque ça fait des mois que les observateurs s'interrogent sur la réaction du Parti démocrate, de ces dirigeants qui, jusqu'à présent, semblaient encore sonnés par la défaite, également divisés sur la stratégie à avoir entre ceux qui estimaient qu'il fallait se recentrer sur les problématiques trumpistes et ceux qui pensaient qu'il fallait au contraire avoir une ligne plus radicale. Donc je voudrais quand même qu'on creuse encore un petit peu cette question, de savoir si on assiste à un sursaut, ou est-ce qu'on assiste aussi à une opportunité politique pour le gouverneur Newsom, qui saisit là ce moment pour apparaître, pour se donner une stature de chef d'État. Voilà, comment est-ce que vous aussi, Ludivine Gili, vous observez cela?
Oui, alors effectivement, le Parti démocrate, depuis la défaite en novembre 2024, est fracturé. Il n'y a pas d'analyse commune des causes de la défaite, et il n'y a pas de ligne politique commune. Et si on résume en gros, parce qu'il y a plus de tendances que ça, mais il y a ceux qui pensent que le parti a perdu parce qu'il était trop à gauche, et ceux qui pensent que le parti a perdu parce qu'il était trop à droite. Ce qui fait que le Parti démocrate est incapable de s'exprimer d'une voix avec un message et avec un projet à proposer à la population états-unienne. Et parallèlement à ça, à la décharge des démocrates, il faut quand même reconnaître que sur le plan des contrebalances, des contre-pouvoirs institutionnels, le Parti démocrate est minoritaire à la Chambre, il est minoritaire au Sénat, donc dans les institutions, il est difficile pour les démocrates de peser. On a entendu des démocrates faire des discours, on a le sénateur Cory Booker qui a parlé pendant 25 heures sans s'arrêter au Sénat. On a des démocrates qui organisent des réunions publiques. On a, alors Bernie Sanders n'est pas un démocrate, mais il siège avec les démocrates au Sénat. Il a organisé une tournée contre l'oligarchie, c'est comme ça qu'il l'a appelé, qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes. Donc on a des actions qui sont menées, mais on n'a pas de résultats concrets. En revanche, et j'aimerais dire 2 mots là-dessus, c'est, Charlotte en parlait aussi brièvement, la réaction de la société civile. On a un peu une vision déformée de l'état de la protestation aux États-Unis. On voit des manifestations depuis quelques jours à Los Angeles et qui font tache d'huile. Il y a énormément de manifestations dans le pays depuis janvier 2025. Et quand on compare les nombres de manifestations en 2017 et en 2025, du 1er janvier au 31 mai, on en a plus de 3 fois plus en 2025. Donc la contestation est là. Ce qui se joue actuellement, à mon avis, c'est le potentiel pour cette contestation de devenir visible et d'atteindre une nouvelle étape, parce qu'on a la convergence, on en parlera peut-être, du défilé militaire demain et des contre-manifestations prévues à cet égard, et des manifestations anti-politiques d'immigration. Et donc avec la convergence de ces deux événements, il est possible que le mouvement de protestation publique dans la rue prenne une nouvelle dimension.
Vous écoutez Culture Monde, les chercheuses Caroline Gillier et Charlotte Recoquillon sont nos invitées pour parler de la situation aux États-Unis suite au déploiement de la garde nationale en Californie. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace. Notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown !
Mais on a été créés pour faire rire les gens, mon vieux !
Assis !
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine nous vient des États-Unis. Il est signé Kevin Callagher, dit Cal, un dessinateur dont nous avons souvent évoqué le travail dans cette chronique. C'est un dessin qui étrille le défilé militaire, vous l'évoquiez à l'instant, Ludivine Gilly, qui sera organisé demain, samedi 14 juin, aux États-Unis à l'occasion des 250 ans de la création de l'armée américaine et qui coïncide avec l'anniversaire du président. On le voit d'ailleurs assis à la tribune, une banderole Happy Birthday au-dessus de lui, un T majuscule juste en dessous de ce qui semble être un trône. Au premier plan, deux chars s'avancent, canons pointés vers le ciel. Rappelez-moi de les emprunter la prochaine fois que mes gars voudront nettoyer le Capitole, glisse Donald Trump à un assistant. C'est un dessin à découvrir sur le fil de notre compte Blue Sky et sur la page internet de Culture Monde. Une réaction peut-être, un commentaire, Charlotte Recoquillon, à cette caricature?
Bah effectivement, ça vient rappeler et souligner à quel point il y a toujours deux poids, deux mesures. On parlait en début d'émission, par exemple, de l'intervention de l'État fédéral dans les affaires locales. On se souvient que Trump n'avait pas mobilisé la garde nationale quand il s'agissait d'interrompre l'insurrection au Capitole, qu'en revanche, là, il était très rapide pour le faire quand il s'agissait de manifestations contre sa politique. Donc oui, c'est un... Et puis là, visuellement, donc je découvre ce dessin là il y a 10 secondes, donc pas une analyse très, très fine, mais c'est vrai que ça convoque immédiatement l'imaginaire des grandes parades militaires et des grands défilés des régimes fascistes, nazis. Et comme la discussion en ce moment, c'est vraiment chez les Américains de savoir si, ça y est, ils ont basculé ou pas dans un régime fasciste, je pense que ce dessin répond qu'on est effectivement en route.
Mais d'ailleurs, sur les banderoles des manifestants qui s'opposent à ce défilé militaire, et Carole Ludivine Gilly, il faut rappeler que les défilés militaires, ce n'est pas une tradition très ancrée aux États-Unis. Eh bien, il y a des banderoles qui disent « No King's Day ». Pas de jour du roi, si on le traduit un peu abruptement, mais dans l'idée de dire que, comme vous le disiez, ce type de défilé relève plus de... Je crois qu'il y a eu des comparaisons avec la Corée du Nord qui ont été faites.
Oui, voilà. Tout à fait. En fait, on est vraiment dans les manifestations qui sont rassemblées sous le nom No King's Day. C'est vraiment la thématique non à l'autoritarisme. Et là, on le voit bien, Donald Trump explique et réexplique que ce défilé est en l'honneur du 250e anniversaire de l'armée. Et ce dessin montre très bien que la manière dont on le perçoit est davantage un défilé en l'honneur de l'anniversaire du 79e anniversaire de Donald Trump. Et donc, le culte de la personnalité. On peut rappeler aussi qu'il y a quelques semaines, une banderole à l'effigie de Donald Trump a été déroulée sur le fronton du ministère de l'Agriculture. On avait le portrait d'Abraham Lincoln, on a maintenant le portrait d'Abraham Lincoln et le portrait de Donald Trump. Donc on est vraiment dans cette logique du culte de la personnalité, auquel s'ajoute là le défilé militaire. Et il faut souligner que les États-Unis n'ont pas cette tradition de défilé militaire. Il y a des traditions de manifestation dans la capitale, les grandes manifestations pour les droits civiques ou contre la guerre du Vietnam, par exemple, là, Donald Trump a menacé ceux qui oseraient prétendre vouloir protester le jour de cette parade militaire. Ce qui repose les questions dont on parlait tout à l'heure sur la liberté d'expression et le fameux premier amendement des États-Unis.
Oui, légalement, il n'est a priori pas fondé à interdire par avance une manifestation.
Non.
Qui va donc se dérouler demain.
Tout à fait. Alors, et une manifestation, en fait, il y en a des centaines qui sont prévues dans l'ensemble du pays.
Toujours sur les questions militaires, je ne sais pas si on peut y faire un lien, mais cette semaine, le président a aussi annoncé que 9 bases militaires, dont les noms étaient liés à des généraux confédérés et qui avaient été changés sous la présidence Biden, allaient retrouver leur nom d'origine. C'est peut-être symbolique. Comment est-ce que ça participe aussi de la politisation de la chose militaire, Charlotte Rocoquillon?
Tout ça est un énorme retour de bâton contre les avancées qui ont été faites par les mouvements sociaux et notamment le mouvement Black Lives Matter ces 10 dernières années. L'Amérique, les électeurs de Trump et Trump et ce mouvement conservateur et d'extrême droite ne supportent pas l'idée qu'il y ait des avancées, que les États-Unis ne correspondent. Enfin, il y a une lutte entre les visions fantasmées d'ailleurs de ce qu'est l'Amérique et de ce qu'est le peuple américain. Et donc les avancées qui ont été faites ces dernières années sont aujourd'hui punis par des contre-décisions. En 2017, après les manifestations de Charlottesville, où déjà Donald Trump avait défendu les militants d'extrême droite qui, d'ailleurs, avaient causé la mort d'une manifestante. Donc, on était déjà un peu dans un scénario similaire. Et il y avait eu tout un débat sur la question des noms, de la toponymie, des lieux publics et la mémoire collective. Est-ce que c'était normal d'avoir des statues de généraux confédérés et d'esclavagistes dans l'espace public, et qu'est-ce que ça voulait dire de la mémoire collective? Et donc Trump vient, tel un enfant capricieux, blessé, vexé, revient sur ce sujet-là en disant on va rechanger les noms et ce sera comme je le décide.
I had this dream, singing with my brothers in harmony, supporting each other. Tailwinds will spin down the Pacific coast, surfing on the air. Heard those voices again.
Southern California de Brian Wilson en 2008, le chanteur dont on a appris le décès ce 11 juin 2025, qui s'était désolidarisé en 2020 lors d'un concert donné par Mike Love, un autre membre fondateur des Beach Boys, et c'était un concert en soutien à Donald Trump. Merci beaucoup à nos deux intervenantes, Charlotte Rocoquillon, je mentionne pour vous, je rappelle, Harlem, une histoire de la gentrification, c'est paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Ludivine Gili, la révolution conservatrice aux États-Unis, c'est aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos éclairages. Merci Marc Sémon, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée aux politiques de légalisation de la consommation et de la culture de cannabis. On ira aux États-Unis encore pour parler de l'essor du cannabis, en Uruguay où l'État garde le contrôle, aux Pays-Bas explorer les dilemmes de la dépénalisation et au Maroc qui a légalisé récemment la culture pour les usages thérapeutiques et industriels. Et dans un instant, les midis de culture.